de la vie et de la terre.
Cours de SVT, terminale spécialité, thématique étudiée, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Grand B, le passé géologique de notre planète. Chapitre 1, le temps et les roches. Vous avez pu voir en classe de première, et plus particulièrement en enseignement scientifique, la controverse au sujet de l'âge de la Terre. Mais au-delà de son âge, comment pouvons-nous retracer son histoire? En fait, pouvoir dater le passé de notre planète, c'est pouvoir commencer à retracer son histoire et essayer d'établir une chronologie des événements s'étant produits dans le passé, tant à l'échelle locale que régionale ou même mondiale. Les événements géologiques ont souvent des effets sur le vivant et sur son évolution. C'est pourquoi certaines espèces constituent aussi des marqueurs du passé, à condition d'en trouver des traces fossiles dans les roches. Aussi, comprendre l'histoire de notre planète, c'est avoir en partie une lecture de l'évolution du vivant. C'est pourquoi il ne faut pas dissocier complètement la géologie de la biologie. Enfin, comprendre le temps qui s'écoule en géologie, c'est comprendre qu'il faut estimer un âge, une durée, une vitesse des événements. Par exemple, une explosion volcanique peut être brutale et être datée. Elle peut durer en se répétant sur des milliers d'années et avoir des conséquences durables au niveau mondial, et finalement laisser des traces sur des millions d'années. S'intéresser donc au temps en géologie est un exercice passionnant, car cela permet de retracer l'histoire de la Terre en interaction avec le vivant. Mais c'est aussi un exercice difficile qui nécessite une bonne maîtrise de tous les outils à disposition du géologue, ce qui en fait un exercice d'argumentation. Problème. Comment dater les différents événements en géologie? Quels sont les outils alors à notre disposition pour évaluer le temps? Et comment appliquer la bonne méthode en fonction de l'objet de notre étude? Alors, dans un premier temps, essayons d'abord de voir quels sont les deux types de méthodes que l'on a à notre disposition dans la datation. Effectivement, on a deux méthodes qui sont complémentaires, car elles approchent la notion du temps de façon totalement différente. Tout d'abord, la datation relative. Elle a pour but de définir l'ordre des événements géologiques. C'est pourquoi elle est relative, car on ne se préoccupe pas de leur datation exacte. Parmi trois événements, lequel a été le premier, puis lequel est le second, et enfin le dernier. Finalement, on ne connaît que l'ordre de passage. C'est plutôt la deuxième méthode, c'est-à-dire la datation absolue, qui va nous permettre de définir un âge auquel un événement a eu lieu ou sa durée. Cet âge se compte en milliers, en millions ou en milliards d'années selon le géochronomètre utilisé. Quant aux méthodes, elles peuvent être également variées, comme compter l'alternance des dépôts marins ou le nombre de stries de croissance d'un organisme fossile. Toutefois, la plus utilisée reste la radiochronologie, car elle permet la détermination de l'âge d'une roche. Alors malgré tout, la valeur n'est généralement pas exacte, puisqu'il y a toujours une marge d'erreur dans les calculs engendrés par la datation absolue. On essaye alors d'avoir la meilleure technique pour déterminer un âge le plus approchant, c'est-à-dire la méthode avec la moins grande marge d'erreur. La datation absolue ne signifie pas qu'elle est précise, mais elle s'oppose à la relative, puisque la relative, il s'agit juste de juxtaposer nos événements. Tandis que l'absolu, il s'agit plutôt de donner une estimation de l'âge. Alors j'ouvre une parenthèse sur ce cours, puisqu'il s'agit pour vous en fait de répertorier les différents arguments qui vont vous permettre d'ordonner finalement des événements géologiques, voire même de les dater. Il est donc très important de connaître toutes les méthodes et en même temps tous les principes, mais également des exemples pour illustrer. Grand 1, chronologie relative. Et d'abord quelques définitions. Alors, datation relative. Elle correspond à l'ensemble des techniques permettant d'ordonner des événements géologiques dans le temps, sans en donner l'âge ni la durée. Ainsi, la chronologie relative s'applique à différentes échelles, qu'elles soient régionales, locales, macroscopiques ou microscopiques. Grand A, méthode et principe. Petit 1, méthode. Elle s'appuie sur une démarche partant de l'observation des formations de terrain, comme par exemple les massifs, les affleurements de roches. En s'aidant des ensembles régionaux, à l'aide de cartes géologiques, mais aussi d'échantillons, de lames minces, pour en déduire une succession d'événements logiques grâce à une démarche scientifique rigoureuse. Alors quels sont les principes utilisés dans cette méthode? Petit 2, principe. Principe de superposition. Les roches sédimentaires se forment dans l'eau. Les particules se déposent par gravité, formant alors une pluie continue sédimentaire et qui se dépose dans le fond et constitue une boue sédimentaire. Cette boue se solidifie, donnant alors une roche. On parle alors de diagénèse pour le mécanisme lui-même transformant la boue en roche. Mais comme les dépôts se font par gravité, les roches alors se succèdent les unes sur les autres et forment des strates horizontales. Comme elles sont donc les unes sur les autres, en respectant leur ordre de dépôt, la plus récente étant au-dessus, celle du dessous la plus ancienne, et celle encore en dessous étant encore plus ancienne, plus vieille. Ceci n'est valable que si les strates n'ont pas subi de plissement trop important. En effet, dans le cas de plis couchés, il est important alors de déterminer quelle est la couche la plus récente et quelle est la couche la plus ancienne. Le simple fait de pouvoir reconstituer une chronologie des strates sédimentaires les unes par rapport aux autres est lié au principe de superposition de ces strates elles-mêmes. Autrement dit, quelle est la plus vieille que je place en dessous? Quelle est la plus récente que je place au-dessus? Voyons maintenant le principe de continuité. Quand une strate se forme, elle a le même âge sur toute sa longueur, même si la roche change. C'est ce qu'on appelle le principe de continuité. Ainsi, on peut avoir, en fonction de la profondeur, des différences de formation de roches sédimentaires. Prenons un exemple simple. Les particules, érodées du continent, sont transportées vers le large au niveau des océans. Plus la particule est grosse, moins elle sera transportée loin. On peut donc avoir du sable qui se dépose en bordure de continent et de l'argile un peu plus loin. Cela, après diagénèse, va nous constituer des roches différentes et pourtant qui se sont déposées en même temps. C'est pourquoi on applique ce principe de continuité. Voyons maintenant le principe de recoupement. Lorsqu'un événement géologique affecte une structure préexistante, en la coupant ou en la transformant, cet événement ne peut donc être que forcément placé après, c'est-à-dire être postérieur à la mise en place de la structure géologique elle-même préexistante. A contrario, si cet événement est antérieur à la structure géologique, alors il ne la recoupe pas. Aussi, il ne la modifie pas. C'est ce qu'on appelle donc le principe de recoupement. Alors prenons un exemple plus simple que celui dans le cours. Imaginez trois strates. De la strate 1 à la strate 3, la strate 1 étant la plus vieille, la strate 3 la plus récente. Imaginons que la strate 1 et 2 soient coupées par une faille, tandis que la strate 3, pas du tout. On voit très bien dans ce cas-là que les strates 1 et 2 sont antérieures à la faille, tandis que la strate 3 s'est déposée après la faille. On peut donc établir la chronologie des événements. La strate 1 s'est d'abord déposée, puis la strate 2, puis il y a eu un jeu de tectonique qui a provoqué une faille, puis la strate 3 s'est déposée. C'est donc grâce au principe de recoupement que l'on peut rétablir l'ordre de dépôt des couches et en même temps des vêtements tectoniques. Cependant, l'exemple que je viens de citer est relativement simple. Alors, quelles sont les différentes applications au principe de recoupement et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, tout d'abord, les failles. Elles sont liées à des mouvements tectoniques brusques sur des structures géologiques cassantes. Elles sont par conséquent plus récentes que les structures qu'elles traversent. C'est ce qu'on vient de décrire dans l'exemple. Les émissions volcaniques. Elles peuvent être tout aussi brusques et liées aux activités volcaniques diverses, comme le volcanisme de rifting, le volcanisme intraplaque de points chauds ou le volcanisme de subduction. Alors attention, sur les émissions volcaniques, il peut y avoir différentes projections, différentes émissions en fait de roches, puisque, vous le savez bien, il peut y avoir de la lave émise, qui va se solidifier, qui va donner une roche en surface, mais il peut y avoir aussi des projections de particules, ou même des émissions de cendres, et le tout ne va pas se répartir sur la même surface. Le volume des roches émises est donc variable, car il dépend de l'activité elle-même, c'est-à-dire de son intensité, de sa durée. Ces roches volcaniques viennent recouvrir des structures géologiques antérieures. Il faut ajouter que le conduit magmatique traverse aussi ces structures déjà en place. Et donc, toute structure recoupée ou recouverte est forcément antérieure. On peut aussi considérer les plis. Ils sont forcément plus récents que les strates qu'ils affectent. Effectivement, on peut avoir des dépôts sédimentaires qui nous donnent des strates, puis qui ensuite vont être plissées, résultat finalement d'une tectonique des plaques qui, elle, va affecter les structures déjà en place. Ainsi, lorsqu'un pli existe, il est forcément plus récent que les strates qui ont été mises en place auparavant. Il faut aussi considérer des épisodes d'émergence suivis d'érosion. Ces épisodes sont des interruptions majeures et elles sont repérables si une nouvelle immersion a lieu juste après et permet un nouveau dépôt sédimentaire. Ainsi, il y aura une discontinuité de couches qu'on observe et qu'on appelle alors discordance. Ces discordances sont d'autant plus marquées que l'érosion ne se fait pas à la même allure partout. Ou alors que les couches se plissent entre-temps. Alors toujours dans ce principe de recoupement, il peut y avoir des épisodes de métamorphisme. Le métamorphisme correspond à la modification minéralogique de roches préexistantes en liaison à des contraintes de température et ou de pression ou de circulation hydrothermale. Les causes du métamorphisme continental sont donc le plus souvent liées aux contraintes tectoniques ou magmatiques. Le métamorphisme affecte généralement les roches contraintes aux mêmes conditions. Il est donc plus récent que les roches qu'il affecte. Mais attention au métamorphisme de contact, qui n'affecte que des roches soumises à une température suffisante pour modifier leurs minéraux, car au-delà d'un certain rayon, les roches ne sont plus affectées. Des roches, ou des fragments de roches, qui ont été emballés dans une matrice magmatique ou sédimentaire, sont plus anciens que cette dernière. Par exemple, on peut considérer des galets issus d'une vieille roche érodée qui sont tombés dans le lit d'une rivière. Ce lit de rivière va être lui-même sédimenté grâce à différentes particules et on va retrouver dans une roche ainsi une matrice sédimentaire et dedans des blocs d'anciennes roches érodées. Ainsi, quand on retrouve le tout, on est capable de dire que les blocs eux-mêmes sont plus anciens que la roche sédimentaire elle-même. Grand 2, l'identification stratigraphique. Quand on étudie des événements géologiques, on peut aisément raisonner par la logique afin de déterminer l'ordre dans lequel ces derniers se sont mis en place. Mais si on veut voir des repères dans l'espace et dans le temps, et estimer un âge, c'est souvent très difficile. Il faut donc avoir des marqueurs universels, fiables, qui donnent des estimations temporelles, fiables. C'est en partie le rôle de l'identification stratigraphique qui s'appuie très largement sur des fossiles marqueurs. Grand A, définition et principe. Alors, quelques définitions. La paléontologie, c'est la science qui étudie les êtres et organismes vivants ayant existé au cours des temps géologiques basés sur l'observation de fossiles. La stratigraphie, nous l'avons vu auparavant, c'est l'étude de la succession chronologique et de la répartition géographique des formations sédimentaires ou d'origine sédimentaire qui, généralement, donnent des strates. Le fossile stratigraphique, c'est un fossile caractéristique représentant un marqueur géologique présent en abondance dans une couche géologique ayant vécu pendant une certaine période et qui permet de donner un intervalle de temps à une couche géologique. Une fois ces définitions données, alors on peut revenir sur un principe, puisqu'un nouveau principe peut être introduit, celui du principe de l'identité paléontologique. Quand on analyse deux strates et qu'elles ont la même association de fossiles stratigraphiques, alors elles sont considérées du même âge géologique. On dit qu'elles ont la même identité géologique. Si je suis candidat pour être un bon fossile stratigraphique, qu'est-ce que je dois donc avoir ? Eh bien, il faut que ce fossile stratigraphique soit issu d'une espèce dont l'apparition et la disparition marquent une période courte, précise. Les fossiles stratigraphiques sont donc choisis dans les groupes ayant une évolution biologique très rapide. Il faut aussi avoir une répétition géographique, c'est-à-dire une étendue qui soit vaste, voire mondiale. Et enfin, avoir eu une population très nombreuse, c'est-à-dire beaucoup d'individus dans sa population. Citons deux très bons exemples de fossiles stratigraphiques. Le premier, les trilobites, puisqu'ils avaient trois lobes au-dessus du corps, ont vécu pendant une période de moins 525 millions d'années à moins 250 millions d'années. Mais la caractéristique de ces trilobites, c'est qu'ils ont été très nombreux et ont formé différentes espèces qui ont vécu à des intervalles différents. Et sur ces intervalles différents, à chaque fois, les populations engendrées de ces espèces variant, les individus ont été très nombreux. Cela permet de donner des marqueurs temporels à travers les différentes couches géologiques dans lesquelles on les retrouve. On peut observer la même chose avec les ammonites, dont la période, elle, a été différente, de moins 400 millions d'années à moins 65 millions d'années. Un autre principe est sous-jacent à celui de l'identité paléontologique. Effectivement, c'est celui du principe d'actualisme. C'est un principe qui postule que les lois qui régissent les phénomènes géologiques actuels étaient également visibles dans le passé, c'est-à-dire c'était les mêmes dans le passé. Le paléoécologue, lui, se base fréquemment sur l'écologie des espèces actuelles pour reconstituer un paléo-environnement. Par exemple, la découverte de foraminifères planctoniques ou d'autres planctons tels que les radiolaires dans une strate conduira à émettre l'hypothèse que les sédiments qui les contiennent se sont déposés en milieu marin. On applique ce principe aux fossiles stratigraphiques. Grand B, de la biostratigraphie à l'échelle stratigraphique. Petit 1, méthode. Alors, qu'est-ce que la biostratigraphie ? C'est une science qui permet de donner la répartition des fossiles, leur abondance et même leur succession dans les strates sédimentaires, ce qui permet de les situer temporellement. Et du coup, il faut rajouter une définition. Qu'est-ce qu'une biozone ? C'est une unité d'un ensemble de couches géologiques déterminées par les fossiles qu'elle contient. Alors voyons maintenant la méthode. À partir de relevés de fossiles, on repère les apparitions et les disparitions d'espèces, ce qui nous permet alors d'établir une succession stratigraphique des espèces. En effet, la biodiversité est en perpétuel renouvellement. Une espèce peut apparaître, se développer et coloniser la planète. Puis elle pourra laisser sa place soit par évolution, soit par extinction. C'est à partir de cette succession que sont définies des biozones. C'est donc l'unité de base de l'échelle stratigraphique et qui est fondée sur une distribution des espèces dans les strates sédimentaires. Horizontalement, c'est le principe de continuité et verticalement. Petit 2, échelle stratigraphique. Grâce au recoupement des biozones et à l'étude de l'ordre des dépôts sédimentaires dans le temps, on a pu établir une échelle stratigraphique. En effet, un ensemble de strates ayant des caractères communs se regroupe en couches géologiques et plusieurs couches géologiques s'associent pour donner une formation géologique qui est l'unité de base au niveau régional. Une formation se définit donc par son faciès, qui constitue l'ensemble des caractères lithologiques, c'est-à-dire de la pierre, et paléontologiques, c'est-à-dire de ce qu'elle contient comme fossile, du dépôt sédimentaire. L'analyse du faciès permet donc de définir les conditions du milieu dans lesquelles se sont formées ces roches. Enfin, l'ensemble des strates comprises entre deux coupures constitue l'élément de base de l'échelle stratigraphique et est appelé étage. Une commission internationale définit un stratotype d'étage, c'est-à-dire un affleurement montrant les caractéristiques à la fois lithologiques et fossilifères de l'étage et surtout présentant les limites inférieures et supérieures de cet étage. Les étages peuvent se regrouper en époques, les époques en périodes et les périodes en aires. Enfin, les aires sont réunies en éons. A noter que, pour le phanérozoïque, ce qui signifie la vie visible, il est donc logique que les étages soient bien caractérisés à partir de cette période, c'est-à-dire il y a moins 541 millions d'années, puisqu'on a eu plein de fossiles, et que les éons antérieurs ne possèdent que très peu d'étages. Effectivement, la vie n'ayant pas été présente, il est difficile d'avoir des séquences en fait de fossiles. Attention, ce cours se poursuit avec la géochronologie absolue. Géochronologie absolue.